Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes toujours dans le premier chapitre de Saint Jean. Nous sommes au verset 10 du premier chapitre. Donc sur le polycopier qui contient les cinq premiers chapitres de Saint Jean avec les explications des pères de l'Église correspondantes, nous en sommes à la page 9, en bas de la page. Nous sommes à la fin de cette partie de Saint Jean qui est prononcée à la fin de chaque messe, à la messe catholique. À la fin de la messe, le prêtre dit les 14 premiers versets du chapitre 1er de Saint Jean, donc en bas de la page 9. Voilà le verset que nous allons commenter. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Rappelez-vous ce que va dire Saint Jean pour relier ce verset 10 au verset 11. Il reprend la même idée, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. C'est un verset essentiel qui est déjà préparé avec le verset 10. Le monde ne l'a pas connu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, créateur, rédempteur du monde, vient dans son monde, dans le monde qu'il a créé, dans la société qu'il a créée, et le monde ne le connaît pas. Pourquoi ? Parce que les siens, c'est-à-dire les hommes créés par lui, n'ont pas voulu recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que les hommes ne veulent pas notre Seigneur Jésus-Christ ? Ben, tout simplement à cause du péché originel. Le péché originel les pousse à adorer un autre Dieu, à reconnaître un autre roi, à savoir à la place de notre Seigneur Jésus-Christ, de recevoir et de reconnaître le démon comme roi. Si Saint Jean disait cela il y a 2000 ans, imaginez-vous un peu ce qu'il pourrait dire aujourd'hui. C'est encore plus vrai. En fait, cette phrase n'est que l'application, si vous voulez, d'une phrase de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on trouve dans l'Évangile. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il adorera le premier et haïra le second, ou il haïra le premier et adorera le second. On peut reprendre aussi, pour expliquer ce verset 10 de Saint Jean, dans le chapitre 1, on peut reprendre la prophétie de Siméon. Cet enfant sera un signe de contradiction pour la ruine, pour la résurrection de beaucoup en Israël. Et on peut aussi utiliser une autre phrase qu'on trouve au début de la vie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vient à Jérusalem, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Donc, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, le monde ne l'a pas connu, il est venu chez lui et chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est un peu la même chose qui est redite plusieurs fois, sur différents tons, par différentes phrases, dans l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas être reconnu comme roi, c'est ce qui est dit dans d'autres paraboles, nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. Donc c'est tout le combat, si vous voulez, de deux mondes, de deux planètes différentes. Le monde de ceux qui veulent recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme leur roi, comme leur Dieu, et ceux qui le refusent. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, je vous en ai souvent déjà parlé, c'est toute l'encyclique du pape Pie XI, Quas Primas, de 1925. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi parce qu'il est créateur et il est roi parce qu'il est rédempteur. Je répète parce que c'est des choses fondamentales à bien comprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi comme créateur par droit de nature et pas. Il est roi également comme rédempteur par droit de conquête parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi parce qu'il a tout pouvoir sur nous, par sa puissance, par sa présence et par son essence. Par sa présence parce qu'il est partout, par sa puissance parce qu'il peut tout, et par son essence parce qu'il est cause de tout. Voilà ce qu'il nous faut reconnaître. Et l'Église de Vatican II, c'est ça. L'Église de Vatican II, c'est tout simplement le refus dogmatique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société. Parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé les hommes. Alors je réponds tout de suite à une objection extrêmement fréquente qu'on entend même parfois dans le milieu de la tradition, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ n'est roi que de ceux qui le suivent par le baptême. Donc n'est roi que des catholiques, donc on ne peut pas imposer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ à tous les hommes, parce qu'on ne peut pas l'imposer à ceux qui ne le reconnaissent pas comme roi. La réponse, elle est toute simple, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, en tant que créateur, a créé tous les hommes et pas simplement les catholiques. Donc tous les hommes étant créés par Dieu doivent le reconnaître comme roi, donc doivent le connaître. Quand l'évangile dit au verset 10 de Saint Jean chapitre 1, le monde ne l'a pas connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire le monde rejette sa loi. La loi de Dieu, c'est pas une loi simplement pour les catholiques, puisque cette loi divine, elle se traduit dans la vie de tous les jours pour tous les hommes par ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle n'est pas simplement une loi qui est inscrite dans le cœur, dans les âmes de ceux qui sont catholiques. La loi naturelle, c'est pour tout le monde. Même un païen, même un athée, même un communiste, même un moderniste endiablé, sait très bien au fond de lui-même qu'il ne peut pas tuer, qu'il ne peut pas voler, qu'il ne peut pas mentir, qu'il ne peut pas voler la femme de son prochain. C'est dans sa nature. Les péchés contre la nature qui crient vengeance contre le ciel sont péchés contre la nature, pas simplement pour les catholiques, mais sont aussi des péchés contre la nature pour les non-catholiques, parce que même les non-catholiques, étant créés par Dieu, ont la même nature humaine. La nature humaine créée par Dieu est la même pour tous les hommes. Donc tous les hommes ayant une nature humaine ont dans leur personne, dans leur personnalité, l'union d'un corps et d'une âme. Ils ont donc une intelligence, ils ont donc une volonté, ils ont donc un irascible, ils ont un concupiscible. Et tous les hommes, quels qu'ils soient, ont une intelligence, une volonté, un concupiscible, un irascible. Donc ils ont un système intellectuel pour tous les hommes qui leur permet d'atteindre le vrai par l'intelligence, qui leur permet d'atteindre de connaître le vrai, pardon, d'abord par l'intelligence, de l'atteindre par la volonté, de lutter contre les obstacles qui se rencontrent dans la pratique du bien par l'irascible, et ils ont également un pouvoir d'attraction vers les choses dont ils ont besoin par le concupiscible. Bon, certes, le démon a mis sa patte sale dans toutes ces histoires-là avec les conséquences du péché originel pour tous les hommes. Il a mis l'ignorance, la malice, la faiblesse, la concupiscence, mais il n'en reste pas moins que tous les hommes ont un cœur, ont une intelligence, une volonté, des passions, et donc n'ont pas le droit de faire avec leur intelligence, avec leur volonté, avec leur irascible, avec leur concupiscible, avec leur passion, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Puisque le monde a été fait par lui, par notre Seigneur Jésus-Christ, le monde est obligé de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là le drame, c'est ce que dit Saint Jean, ce verset 10. Le monde a été fait par lui, mais néanmoins, bien que le monde ait été fait par lui, le monde ne l'a pas connu. Bon, ça serait déjà beaucoup moins grave si Saint Jean avait dit le monde n'a pas été fait par lui, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le monde ne l'a pas connu, ça pourrait être logique. Mais le monde a été fait par lui. Le monde, toute la création. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc tout ce qui est sur la terre, tout a été créé par lui, sauf le péché. C'est donc par la présence de sa divinité qu'il fait tout ce qu'il crée et qu'il gouverne tout ce qu'il a créé. Il est donc dans le monde comme le créateur du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ étant notre Créateur, notre Rédempteur, a le droit donc de nous imposer un mode d'emploi pour notre intelligence, pour notre volonté. Je vois que c'est des choses que j'ai déjà souvent expliquées, surtout quand je parle de la fête du Christ-Roi qui va bientôt arriver. C'est la fête du Christ-Roi, c'est dans le dernier dimanche d'octobre. Eh bien, cette fête explique bien justement que notre Seigneur Jésus-Christ est le roi de notre cœur, de notre intelligence et de notre volonté, parce que c'est lui qui a fait ce cœur, qui a fait cette intelligence, qui a fait notre volonté, et qui a donc parfaitement le droit de nous imposer un mode d'emploi pour ce cœur, pour cette intelligence, pour cette volonté. Et quand le monde, Saint Jean dit « le monde ne l'a pas connu », ça veut dire le monde refuse d'utiliser le mode d'emploi donné par l'intelligence, pour la volonté, pour les passions, pour le cœur donc, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est une chose difficile à comprendre, parce qu'au fond de nous-mêmes, on a énormément de difficultés à accepter le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que c'est vraiment sans doute le dogme le plus important aujourd'hui. Les dogmes les plus importants sont les dogmes qui sont les plus attaqués par nos adversaires. Quel est le plus grand adversaire du christianisme? Je vous l'ai dit 20 fois. Le plus grand adversaire du christianisme, du catholicisme aujourd'hui, c'est Bergoglio à Rome. Alors quel est le dogme qui est le plus attaqué par Bergoglio? Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça, pourquoi? À la base, à la racine, il y a un refus du péché originel. On refuse l'existence du péché originel, on ne croit plus au péché originel. Donc si le péché originel n'existe pas, le monde, l'homme est bon, et puisque l'homme est bon, il ne peut pas pécher. Donc tout ce que fait l'homme doit être reconnu comme un droit inhérent à l'homme, d'où la déclaration des droits de l'homme. Et ce sont les quatre mensonges du démon, toujours les mêmes. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc notre Seigneur ne se contente pas de créer les hommes, il les gouverne. Donc il a le droit de donner une loi à ces hommes, il a un pouvoir. Il a un pouvoir judiciaire, il a un pouvoir législatif, il a un pouvoir coercitif. Il a un pouvoir judiciaire parce qu'il a le droit de nous donner des lois, des modes d'emploi, un mode d'emploi pour l'usage de notre intelligence. Il a un pouvoir législatif pour faire ses lois, pour faire les lois, judiciaire pour juger selon les lois qu'il nous a données, et coercitif pour nous obliger à suivre ces lois. Ça servirait à quoi pour notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner un mode d'emploi, si l'usage de ce mode d'emploi pour l'intelligence et de la volonté était purement à disposition de chaque personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation morale de suivre cet usage. On était libre. C'est ça la liberté de conscience. Mais justement, on n'est pas libre. C'est pour cela que la liberté de conscience a été condamnée par l'Église comme liberté de perdition et insanité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ étant roi, de nos intelligences et de nos volontés, nous devons le connaître, c'est-à-dire nous devons reconnaître sa loi. C'est ça la signification de la phrase « Le monde ne l'a pas connu, le monde refuse la loi divine de notre Seigneur Jésus-Christ ». N'oublions pas que la loi naturelle n'est que la transcription dans la nature de la loi éternelle. En disant « Le monde ne l'a point connu », donc en bas de la page 9, l'évangéliste a indiqué sommairement la cause de cette ignorance. Car le monde, ici, symbolise les hommes qui sont attachés au monde et qui n'ont de goût et d'affection que pour le monde. Donc, ce que Saint Jean appelle le monde, c'est ceux qui ont l'esprit du monde. Qu'est-ce que c'est que cet esprit du monde? L'esprit du monde, c'est un esprit d'indépendance. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Bien, tous les hommes qui refusent cette phrase, qui refusent de reconnaître qu'ils ont été créés par Dieu, et qui donc étant créés par Dieu, Dieu a un droit sur nous, l'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu, donc puisque j'ai été créé par Dieu, j'ai une obligation de l'adorer, une obligation de le respecter, une obligation de lui obéir, et toutes les personnes qui refusent cette obligation, évidemment, refusent de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ a un droit sur nous. Et on voit très bien, quand on donne ces explications, à quel point les droits de l'homme sont en totale difformité avec les droits de Dieu. Ce n'est pas simplement une difformité, c'est une contradiction. On ne peut pas à la fois accepter les droits de Dieu et les droits de l'homme. Ce n'est pas possible. Parce que qui dit droit de l'homme dit négation des droits de Dieu. Et qui dit droit de Dieu dit négation des droits de l'homme, parce que l'homme n'est pas Dieu. L'homme est une créature. Donc rien, c'est en haut de la page 10, rien ne trouble autant l'âme que l'amour énervant des choses présentes. Donc Saint Jean-Baptiste déplore l'aveuglement et l'ignorance de l'infirmité humaine depuis la chute, car la perte de la foi entraîne celle de la connaissance, son créateur et sauveur, c'est-à-dire du Verbe. Donc la perte de la foi va entraîner évidemment la perte de la charité. La charité, c'est quoi? C'est précisément l'obéissance à la loi divine. Quand j'obéis à la loi divine, je suis en vertu de charité. Quand je refuse la loi divine, parce que je refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je perds la charité, c'est le péché mortel. Donc il faut se poser cette question, est-ce que j'ai cette connaissance de Dieu? Ça ne suffit pas d'avoir la connaissance de Dieu, c'est la première étape. Mais il faut aussi avoir la pratique de cette connaissance. Il faut connaître par la foi. C'est la foi qui nous donne la connaissance. La foi nous indique qu'il y a un Dieu, créateur du ciel et de la terre, et que comme Dieu est mon roi, comme créateur et comme rédempteur, donc je dois l'adorer, l'honorer, le servir. Je dois l'honorer, c'est-à-dire je dois l'adorer, je dois le louer, donc ça veut dire je dois l'adorer, je dois l'honorer, ça veut dire que je dois le respecter, le considérer comme mon chef, mon prince, mon roi, et je dois également le servir, c'est-à-dire je dois lui obéir. Servir Dieu, ça veut dire obéir à Dieu, c'est la même chose. Donc pour connaître Dieu, il faut la foi, pour prier Dieu, il faut l'espérance, et pour lui obéir, il faut la charité. Donc il faut d'abord utiliser notre foi pour connaître Dieu, mais ça ne suffit pas de connaître Dieu. Il faut faire aimer cette connaissance. Si je connais mon catéchisme par cœur, mais que je n'aime pas mon catéchisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la foi, mais je n'ai pas la charité. Et donc, il faut utiliser la charité que le bon Dieu nous donne, par l'état de grâce, pour aimer la foi, aimer l'enseignement de la foi. Je vous l'ai souvent expliqué, le problème des années 60, c'était celui-là. Les gens connaissaient leur catéchisme, mais il n'y avait aucun amour pour le catéchisme. Donc, par la foi, il faut connaître Dieu, mais il faut que cette foi soit formée par la vertu de charité, sinon elle devient une foi morte. Et la foi est éclairée par la vertu de charité, formée par la vertu de charité va devenir la forme de la foi, c'est-à-dire va donner la vie à la foi, et cette vertu de charité va permettre d'aimer la vérité que j'ai connue par la foi. C'est pareil pour l'espérance. L'espérance me donne quoi? L'espérance va me donner la prière, parce que j'ai l'espérance, je vais prier. On ne prie pas si on n'a pas d'espérance. Quelqu'un qui a perdu l'espérance est incapable de prier, c'est du bon sens élémentaire. Donc il faut connaître la prière par l'espérance, il faut prier par l'espérance, mais il faut aimer prier. Ça sert à quoi de connaître toutes ces prières et les dire par obligation? Alors je dis mon rosaire tous les jours parce que je suis obligé de le dire. C'est pas comme ça qu'on garde la foi. Parce qu'il faut l'espérance pour prier, mais il faut encore avoir l'amour de la prière. Et ça, c'est la charité. Donc la charité va former l'espérance comme la charité va former la vertu de foi. Donc si j'ai l'espérance mais que je n'ai pas l'état de grâce, j'ai une espérance informe. C'est-à-dire j'ai l'espérance, je prie, mais je suis incapable d'aimer la prière. Et c'est tout le drame, encore une fois, des années 60, parce que la plupart des parents catholiques autour des années 60 ont arrêté, ont perdu ce désir de transmettre à leurs enfants. La transmission a arrêté de se faire. Et on voit exactement ce qui se passe aujourd'hui. On le voit tout le temps avec des braves gens. J'en ai encore rencontré une brave personne comme ça la semaine dernière, une brave mère de famille. Il y avait des enfants qui pratiquaient dans l'église moderne, mais qui pratiquaient quand même d'une certaine façon, qui croyaient en Dieu. Mais quand je lui ai demandé, mais vos enfants, est-ce qu'ils ont conservé la foi? Ben non, ils ont tous perdu la foi. Oui, mes enfants ont encore fait baptiser les petits-enfants, mais ça s'arrête là. Les petits-enfants, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et bon, comme je connaissais peu cette personne, je n'ai pas pu lui dire ce que je pensais, mais je lui ai dit, mais ça ne vous fait rien de ne pas avoir transmis? Parce que si vos enfants n'ont pas gardé la pratique de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez complètement échoué dans votre rôle essentiel de transmission de la foi. Donc il faut transmettre la foi et la charité qui éclaire la foi, c'est-à-dire qu'il faut transmettre la foi qui permet à vos enfants de croire en Dieu, Mais il faut aussi qu'ils aient, avec la vertu de charité qui forme cette foi, c'est-à-dire qui va surnaturaliser cette foi, il faut également qu'ils aiment la foi catholique. Donc ils aiment leur catéchisme. Ça sert à quoi d'enseigner le catéchisme à vos enfants s'ils sont incapables de l'aimer parce que vous n'avez pas transmis avec la foi la charité? Ça sert à quoi de vérifier que vos enfants fassent votre prière, leur prière du matin, leur prière du soir et disent leur chapelet en famille tous les jours si vous êtes incapable de transmettre l'amour de la prière parce que l'espérance que vous avez donnée à vos enfants qui leur permet de prier n'est pas connectée à la charité, donc c'est une espérance morte parce que c'est une espérance qui n'est pas formée par la vertu de charité. C'est ça le drame. Le drame, il est là et c'est ça l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II n'est que la conséquence du fait que la foi et l'espérance chez la plupart des catholiques autour des années 60, était une foi morte, une espérance morte, parce qu'elle n'était plus formée par la vertu de charité. Et bien la foi, il y a bien l'espérance, mais il n'y a plus la charité. Il y a un magnifique rosier dans votre jardin, il donne des roses magnifiques à condition qu'on s'en occupe de ce rosier. Il faut le préserver des pucerons, il faut l'arroser, il faut l'émonder, il faut le tailler pour qu'il donne des belles roses. À ce moment, il donne les plus belles roses du monde, très bien. Mais si vous n'arrosez pas pendant des mois et des mois, surtout pendant la période d'été quand il fait très chaud, vous n'arrosez pas votre rosier, qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre rosier, il va dépérir. Il va être incapable de donner des forces, des belles roses, pardon, parce que votre rosier n'a plus en lui la sève qui lui permet de nourrir les roses. Donc vous avez un rosier, mais il n'y a plus de roses. Donc des parents qui ont donné la foi et l'espérance à leurs enfants pour le baptême, mais qui n'ont pas appris à leurs enfants à aimer leur foi, aimer leur espérance, donc aimer la conséquence de la foi, aimer leur catéchisme, et qui n'ont pas appris à leurs enfants à aimer prier, eh bien, sont des parents, des jardiniers qui avaient reçu en dot, en héritage, un magnifique jardin avec des rosiers magnifiques, mais qui ne se sont pas préoccupés d'arroser leur rosier. Évidemment, les rosiers sont devenus complètement caducs, sont devenus pratiquement morts. Il n'y a plus de roses dans le jardin, c'est votre faute. Il ne faut pas dire « Ah, mais c'est la faute de mes enfants ». Les enfants n'avaient qu'à profiter de la foi et de l'espérance qu'ils ont reçue avec le baptême. Attention, parce que les parents ont un rôle énorme justement pour la conservation. La conservation de cette foi et de cette espérance. Et c'est la faute des parents si la foi et l'espérance n'ont pas été transmises, n'ont pas été aimées. Je précise, parce qu'il faut être honnête, que ce n'est pas simplement la faute des parents. Je pense qu'avant même la faute des parents, ça a aussi été la faute des prêtres. Les prêtres des années 60, juste après la mort du pape Pie XII, et avant même l'arrivée du Vatican II, qui n'est arrivé qu'en 62, les prêtres des années 60 ont arrêté de transmettre. Vous voyez, ils donnaient leur catéchisme. Je me rappelle très bien quand je suivais le catéchisme, quand j'avais une dizaine d'années, donc autour des années 60, c'était juste avant le Vatican II, avant le Concile Vatican II. Le cours de catéchisme que je recevais de la part du curé du village où j'habitais à l'époque, j'habitais près d'Auxerre, dans l'Yonne, et quand j'étais gamin, et bien, le curé nous donnait un cours de catéchisme, mais il était incapable de nous faire aimer le catéchisme. Le catéchisme, en tout cas pour moi, c'était devenu un cours complètement pénible, excusez-moi du terme un peu vulgaire, barbant littéralement, parce qu'il manquait l'amour de ce catéchisme. Et l'amour du catéchisme, je l'ai obtenu avec la grâce du bon Dieu pendant mes études au séminaire. Parce qu'en étudiant la foi catholique, c'est là que je commençais à me rendre compte de la beauté de la foi catholique. On donne presque l'impression, c'est ce qui est un peu, c'est le drame d'aujourd'hui dans les milieux modernistes, c'est qu'on donne la foi, la charité et l'espérance aux enfants, mais on leur donne honte de l'Église. Les enfants modernes ont honte de l'Église. Même ceux qui se prétendent catholiques, ils ont honte de leur église, parce que dès qu'on parle d'église catholique, ah oui, l'église catholique, mais c'est la Saint-Barthélemy. L'église catholique, c'est l'Inquisition. L'église catholique, c'est les croisades. Donc des choses épouvantables, il y a eu des massacres épouvantables, des bouchers épouvantables, des cadavres d'hérétiques qui étaient brûlés par ces épouvantables catholiques. Donc on donne aux enfants la honte de leur propre église. C'est comme si on donnait aux enfants la honte, non seulement de leur propre église, mais c'est comme si on donnait aux enfants la honte de leurs parents. Ils ont des parents, mais les parents leur font honte. Et dans nos écoles, on apprend aux enfants, dans les écoles modernes, on apprend aux enfants à avoir honte de leurs parents. Et dans les chapelles modernistes, on apprend aux enfants à avoir honte de leurs de leur famille spirituelle, c'est-à-dire avoir honte de l'Église catholique. Quel malheur! Donc j'insiste sur ces deux versets qui sont absolument, absolument essentiels. Le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Bon, il était dans le monde parce qu'il est venu parmi nous. Le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Donc Saint Jean-Baptiste déplore cet aveuglement, car la perte de la foi, disent les pères, entraîne celle de la connaissance de son Créateur et Sauveur, c'est-à-dire du Verbe, parce que j'ai perdu la foi, je deviens incapable de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Les pères disent, la perte de la foi entraîne celle de la connaissance de son Créateur et Sauveur, c'est-à-dire du Verbe. On peut transformer la phrase, la compléter en disant, la perte de la vertu de charité qui donne la forme à la foi entraîne la perte de la connaissance du Créateur et Sauveur, c'est-à-dire du Verbe de Dieu. La foi me permet de croire, mais j'ai besoin que cette foi s'alimente par la vertu de charité pour que cette foi d'informe qu'elle était peut-être au début devienne formée. Le jour de mon baptême, j'ai reçu une foi formée, parce qu'avec la foi et l'espérance, le baptême donne aussi la vertu de charité. Alors évidemment, les bébés ils vont garder cette vertu de charité parce qu'ils sont incapables de la perdre. Les bébés catholiques, les bébés baptisés vont garder cette foi et cette espérance sans qu'ils n'ont pas l'usage de la raison. Mais malheureusement, avec l'arrivée de l'usage de la raison, beaucoup de ces bébés, qui sont devenus des enfants, vont perdre la foi avec le premier péché mortel. Ils vont pas perdre la foi, ils vont perdre la charité. Ils vont perdre la foi formée. Ils vont avoir une foi informe. Une foi informe, c'est un rosier, encore une fois, qui a la puissance de donner des roses magnifiques, mais qui reste... Cette puissance ne passe jamais à l'acte parce que le jardinier ne fait pas son travail qui consiste à arroser, émonder et protéger le rosier. Et donc, posez-vous, que ceux qui m'écoutent sur Internet se posent cette question parce que c'est un problème essentiel. Hein. Si la foi catholique a pratiquement virtuellement disparu en France, c'est la faute des parents en grande partie qui n'ont pas fait leur travail et la faute des prêtres qui n'ont pas aidé leurs enfants à garder cette foi. A pas aidé leur fidèle à garder cette foi. Donc il faut vraiment méditer sur ce passage absolument essentiel. Le monde ne l'a pas connu. Pourquoi ? Parce que le monde ne l'a pas connu, parce que le monde a refusé de reconnaître qu'il a été fait par lui. Derrière tout ça, encore une fois, je m'excuse de me répéter, mais il faut que ça rentre. Le monde ne l'a pas connu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde refuse le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, bien que ce monde ait été créé par lui. Je reconnais que notre Seigneur Jésus-Christ a fait le ciel et la terre, je le dis tous les jours dans mon credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mais dans la pratique, je fais comme si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait aucun droit sur sa création. Combien de catholiques qui se prétendent catholiques même pratiquants, vont dire, j'ai entendu très souvent cette ineptie, des catholiques pratiquants, même parfois des catholiques de tradition, qui vont me sortir la bouche en cœur que la liberté de conscience est quelque chose de magnifique et qu'il faut protéger la liberté de conscience. Et quand je leur explique, mais la liberté de conscience a été condamnée de façon infaillible par les papes, notamment par le pape Pie IX en 1864, dans Quanta Cural Syllabus, ça a été condamné comme liberté de perdition et insanité. Des catholiques qui se prétendent de tradition vont dire « Ah, monsieur l'abbé, c'est exagéré, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. C'était valable du temps de Pie IX en 1864, c'est certainement plus valable aujourd'hui. » Mais est-ce que vous réalisez que dire une chose pareille, de dire que la liberté de conscience est un droit fondamental de tous les hommes, qui doit être respecté même par l'État, c'est ce qu'on entend tout le temps, ça c'est Vatican II, et ça c'est la négation totale, absolue du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc beaucoup de nos, malheureusement, je peux aller jusqu'à là, beaucoup de nos fidèles sont catholiques dans leur intelligence, mais dans la pratique, ils agissent comme s'ils étaient des modernistes. Et si vous ne vivez pas comme vous croyez, un jour, vous croirez comme vous vivez. Donc si vous pensez comme un catholique, mais que vous vivez comme un moderniste, un jour vous penserez comme un moderniste. C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis les années 60, l'Église de Vatican II pousse les catholiques à vivre comme des protestants, comme des païens, comme des modernistes, et du coup, ben, les gens sont devenus modernistes. Le verset 11, 12 et 13, donc en haut de la page 10, on reprend exactement la même idée chez Saint Jean. Il est venu chez les siens. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. cet enfant sera un site de contradiction pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. C'est-à-dire, je refuse de reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ a un droit sur moi parce que ma liberté de conscience me dit que j'ai le droit de décider ce que je veux par moi-même. Parce que mes yeux se sont maintenant ouverts, parce que je reconnais que notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus mon roi, donc je suis mon propre roi. Étant devenu mon propre roi, je suis devenu mon propre Dieu. Étant Dieu, j'ai le droit de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Et la faire dans le sac. Tout ça parce qu'on se prend pour des demi-dieux, et parce qu'on se prend pour des dieux, ben évidemment, la conséquence, c'est qu'on peut décider ce qui est bien, ce qui est mal, et puis qu'on ne mourra pas, que nos yeux s'ouvriront, on décidera par nous-mêmes tout ce qu'on veut. Voilà ce que dit le texte, donc versets 11, 12 et 13. « Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, nous avons vu sa gloire, gloire comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, c'est la conséquence directe du fait que, bien que le monde ait été fait par notre Seigneur Jésus-Christ, le monde ne l'ait pas connu. Alors voyons un petit peu ce que disent les Pères. Donc, versets 11, 12 et 13, page 10 du Polycopie. Ces paroles, le monde ne l'a point connu, doivent s'entendre des temps qui ont précédé l'incarnation. Celles qui suivent, il est venu dans son héritage, donc il est venu chez lui, et se rapporte au temps de la prédication de l'Évangile. Donc les Juifs avaient déjà reçu l'annonce de l'incarnation. Il y avait toutes ces prophéties qui annonçaient que le Messie allait naître d'une vierge, allait naître dans la cité de David à Bethléem. Qu'il allait avoir en tant qu'homme ses mains, ses pieds percés et qu'on allait regarder, se moquer de lui, mourir sur la croix. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc déjà avant notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait beaucoup de gens qui refusaient l'incarnation. On le voit très bien dans l'histoire de France avec l'arrivée, si vous voulez, des idées protestantes. Ce refus de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme notre roi, comme notre législateur, comme notre créateur et notre rédempteur, ça ne date pas de la Révolution française, mes bien chers frères. Ça date de longtemps avant. Ce sont déjà les idées de la Renaissance. Les idées de la Renaissance, au XIVe siècle, et au XVe siècle, sous l'influence d'Érasme, sous l'influence de... comme roi, nous avions à l'époque François Ier en France, et François Ier a fait alliance avec les Turcs contre l'Église catholique. François Ier. Bon, c'était toute l'arrivée de la Renaissance. La Renaissance, c'est quoi? Ça veut dire renaissance. Renaissance, ça veut dire que on prend un nouveau chef, un nouveau Dieu. On était né dans l'amitié du vrai Dieu, on va renaître dans l'amitié du faux Dieu. Nous reconnaissions notre Seigneur Jésus-Christ comme roi avec le Moyen-Âge chrétien, mais avec l'arrivée de la Révolution, avec l'arrivée de l'esprit de la Révolution qui prépare la Révolution de 789. N'oubliez pas que le début de la descente, on dit, c'est 1274, mort de saint Thomas d'Aquin, mort de saint Bonaventure aussi. C'est le début de la descente en enfer. C'est le début d'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, c'est quoi? L'esprit d'indépendance, c'est celui qui était dans l'âme, dans l'esprit de Lucifer. Je ne servirai pas. Ça lui a coûté assez cher d'ailleurs. Pareil pour nous. Donc il y a d'abord eu la Renaissance. C'est tout au XIVe, XVe siècle. Et la Renaissance va amener directement au protestantisme. Là, c'est 1517. 14e, 15e siècle, préparation du protestantisme. 16e siècle, c'est 1517. C'est l'arrivée du protestantisme de Martin Luther, l'indépendance. C'est l'indépendance en philosophie, c'est l'indépendance, si vous voulez, en théologie. Luther refusait toute autorité au-dessus de lui, quelle qu'elle soit. Et ce protestantisme du début du XVIe siècle va entraîner, au siècle très, très rapidement après, va entraîner l'arrivée de la franc-maçonnerie. On descend encore d'un cran. Cette franc-maçonnerie, la fondation de la franc-maçonnerie, c'est 1717, 200 ans après. Ben, la franc-maçonnerie n'aurait jamais pu démarrer sans le protestantisme qui a servi de tremplin, de marchepied à la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie n'aurait jamais pu arriver, exister sans le protestantisme, et le protestantisme n'aurait jamais pu exister sans la Renaissance. Donc le protestantisme est la conséquence directe des idées de la Renaissance. Et le protestantisme a entraîné la franc-maçonnerie. 1717, par des Aguliers et les constitutions d'Anderson. Tout ça vient de quoi? Ça vient de la Renaissance. La Renaissance, c'est quoi? C'est l'adoration, le culte de l'homme. Oui. Donc c'est absolument fondamental de comprendre tout cela. Et 1717 va entraîner la révolution 1848, donc la première internationale avec Karl Marx, et entraîner évidemment la révolution de 1917, la révolution russe, avec le déferlement du communisme dans le monde entier. Vous allez dire, mais M. l'abbé, à l'époque, il y avait des vrais papes. C'est vrai. C'est vrai, il y avait des très grands papes, d'ailleurs. Un de ceux qui a le plus lutté, justement, contre ce déferlement des idées de la Révolution, c'était un très grand pape, le pape Pie IX, 1848, et conséquence directe de la Révolution 1848, eh bien, on les voit très bien. Par toutes les fausses idées qui ont commencé à se répandre, les idées du libéralisme qui ont été très fortement condamnées par le pape Pie IX. Et ensuite, ces choses vont malheureusement continuer. Oui. Donc il faut vraiment comprendre toutes ces choses-là. Donc il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. L'évangéliste appelle les Juifs les siens comme étant le peuple privilégié du Christ. Ou bien tous les hommes conçus comme étant tous ses créatures. Dans l'étonnement ou le jeter la conduite insensée du genre humain, il s'est écrié plutôt, le monde a été fait par lui et le monde n'a pas connu son créateur. Ici, l'ingratitude des Juifs le remplit d'indignation et lance contre eux cette accusation bien plus grave, les siens ne l'ont pas reçue. Notre Seigneur Jésus-Christ vient dans sa propre maison, vient dans l'âme qu'il a créée. Et l'âme en question, la maison en question, ferme les portes, refuse de le recevoir. C'est ça la révolution, c'est ça le modernisme, c'est ça Bergoglio, c'est ça tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc posez-nous cette question toute simple. Il est venu chez moi, il a le droit de venir chez moi parce qu'il est chez lui, chez moi. Est-ce que je l'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je l'ai accepté dans mon âme ou est-ce que je l'ai refusé? Oui, c'est cette phrase, il faut vraiment, vraiment la méditer. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez lui, ça veut dire, il est venu dans mon âme. Il est venu dans mon église, dans son âme. Ce n'est pas l'âme de Dieu, pour ne pas dire ça, mais il est venu dans mon âme, c'est son âme dans le sens que c'est lui qui l'a créé, cette âme. Un texte ici de Saint Clément d'Alexandrie, au milieu de la page 10. Par son incarnation, le Christ changea la terre en paradis, les hommes en anges et en dieux. Il est le beau cocher qui conduit au ciel, dans l'immortalité bienheureuse, le chariot dont les deux chevaux sont les juifs et les gentils. Donc les juifs vont amener la foi aux gentils, c'était ce qui était prévu par la loi du bon Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu avait voulu? Il a préparé un peuple spécial, c'est tout le peuple de l'Ancien Testament, le peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif, pour amener la foi aux gentils. Alors, au début, notre Seigneur Jésus-Christ n'a prêché en fait qu'en Palestine, c'est tout. Il n'est pas sorti de la Palestine. Il a prêché partout, en Judée, en Samarie, en Galilée, mais c'était la Palestine. Mais même les apôtres, tout à fait au début, sont restés exclusivement en Palestine. Et il a fallu attendre la Pentecôte, où à ce moment-là, les apôtres remplis du Saint-Esprit ont compris qu'il fallait maintenant qu'ils partent à l'étranger et qu'ils partent à la conquête des gentils. C'était tout l'apostolat de Saint Paul, et puis Saint Pierre lui-même qui a envoyé les apôtres dans le monde entier. N'oubliez pas que le monde entier de l'époque a déjà été évangélisé par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque la tradition nous dit que Saint Thomas apôtre est allé jusqu'en Chine. Que Saint Thomas apôtre est allé aussi évangéliser, mais miraculeusement, a été porté par les anges jusqu'en Amérique latine. Puisque déjà les ancêtres des Aztèques avaient appris au tout à fait début du christianisme, avait appris l'existence d'un Dieu en trois personnes. Il le savait. C'est pareil en Chine. Malheureusement, mais ces pays n'ont pas conservé la foi. Il y a des pays qui ont reçu la foi catholique très très tôt. L'Arménie, par exemple. Et malheureusement, dès le 4e siècle, même, oui, c'est ça, la fin du 4e siècle, au milieu du 4e siècle, le nestorianisme a tout emporté avec le monothélisme, le monophysisme, toutes ces hérésies, surtout trinitaires, eh bien, tout emporté. Et la France, c'est pareil. Et la France, on n'est pas plus malin que les autres. Hein. Nous, on a reçu beaucoup, beaucoup plus parce qu'on a reçu la foi, on l'a conservée pendant très longtemps. Je dirais les Arméniens, ils ont une certaine excuse parce que la foi qu'ils ont reçue, ils n'ont pas eu le temps vraiment de l'approfondir pendant longtemps puisque très vite, ils sont passés, hélas, à l'hérésie. Par contre, la France est restée sous contrôle de la foi catholique pendant des siècles et des siècles. Depuis l'arrivée de la foi catholique avec les premiers prédicateurs, savoir Saint-Lazare, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Marthe, puis Saint-Denis, puis Saint-Martial, puis tous ces grands saints qui ont fait la France chrétienne. Avec la conversion du roi Clovis en 496, la France va devenir une prairie extraordinaire avec des fleurs extraordinaires et va se couvrir d'un blanc manteau d'abbayes d'église dans toute la France, partout. Et malheureusement, avec l'arrivée de la Renaissance, encore une fois, donc au XIVe siècle, eh bien, ces fleurs ne vont plus être arrosées. Elles vont dépérir et ça va être la catastrophe de Vatican, de l'Église, de la Révolution de 1789. Et la Révolution de 1789 va entraîner la Révolution de 1848, la Révolution de 1917 et Vatican II. Vatican II, 1962-1965, c'est l'esprit de la Révolution française, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit du protestantisme, c'est l'esprit de la Renaissance, tout ça mêlé ensemble. Hein, tout ça mêlé ensemble. Donc, par son incarnation, Dieu voulait changer la terre en paradis, il voulait diviniser d'une certaine façon les hommes. Dieu devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, dans le bon sens du terme. Et donc, par son incarnation et sa rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ va élever l'âme de l'homme jusqu'au ciel. Et malheureusement, eh bien, l'incarnation va être rendue littéralement caduque parce que les hommes n'en vont pas vouloir. Il est venu chez lui et les siens n'en ont pas reçu. Hein? L'esprit et la grâce de Dieu par lesquels l'homme charnel est régénéré et justifié lui permet de devenir spirituel, juste, saint, ami et fils de Dieu. Par l'habitation en lui de la Sainte Trinité, l'homme se divinise, devient l'héritier de Dieu et du Christ. Donc, c'est la fameuse phrase de Saint Augustin. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Dieu se fait tout petit pour que l'homme puisse devenir très grand. Mais l'homme devient grand en toute prudence, dans la mesure où il sait se mettre à genoux. Hein. En fait, l'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux. Si l'homme refuse de se mettre à genoux, ben, il va refuser de reconnaître Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, comme son Rédempteur et son Créateur, et donc il va tout perdre. Donc, par l'habitation en lui de la Sainte Trinité, l'homme se divinise, devient héritier de Dieu et de Christ, on devient fils adoptif de Dieu par, justement, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. L'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est quoi? L'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est tout simplement le mystère de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est l'habitation en nous de l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Cette habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est la vertu de charité, c'est ça la charité. Donc, par la vertu de charité, la Sainte Trinité habite en moi, et l'homme se divinise pour devenir héritier de Dieu et du Christ. Donc devenant héritier de Dieu et du Christ, à ce moment-là, je peux devenir héritier de la vie éternelle au ciel. Mais la condition pour pouvoir entrer au ciel, il y a une condition sine qua non. Cette condition sine qua non, c'est l'esprit de charité dans mon âme. Donc l'évangéliste, en parlant ainsi, veut nous faire comprendre d'un côté la bassesse de la première génération qui vient du sang et de la volonté de la chair, et l'élévation de la seconde qui vient de la grâce et ennoblit notre nature, afin que nous ayons une haute dite idée de la grâce qui nous a engendrés et que nous ne négligeons rien pour la conserver. Donc, par la grâce sanctifiante, l'homme est littéralement déifié. Par la Sainte Communion, l'homme est déifié. Et par la confession qui nous rend l'état de grâce, l'homme retrouve une union intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où on voit la catastrophe de Vatican II. Vatican II nie toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. C'est la dernière proposition du syllabus. Le pape Pie IX rappelle qu'il condamne de façon absolue tous ceux qui disent que le pape doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et le monde moderne. C'est condamné par l'Église. Donc le pape ne peut pas, ne doit pas, ne voudra jamais se réconcilier avec le progrès, le monde moderne et le libéralisme. Vous allez dire, comment on est arrivé à des choses comme ça? Comment est-il possible que nous soyons tombés aussi bas? C'est une question qu'on nous pose très régulièrement, monsieur l'abbé. Comment est-ce possible, avec tout ce qu'on a reçu en France, comment est-ce possible que nous soyons tombés aussi bas dans la bêtise, dans la stupidité? La réponse est toute simple. Orgueil, ignorance, amour des nouveautés. Trois causes du modernisme données par Saint-Pélis, cet orgueil, cette ignorance et cet amour des nouveautés qui ont détruit l'objectivisme de la connaissance pour mettre dans notre âme le subjectivisme. Le subjectivisme, c'est un idéalisme. Au lieu de vivre avec deux pieds sur la terre, dans la réalité des choses, on a commencé, au lieu de vivre de façon objective, avec un système de connaissance d'objectivisme, on est passé au système irréaliste, au système idéaliste, à savoir le subjectivisme, c'est Emmanuel Kant, et tous les enfants d'Emmanuel Kant, les enfants spirituels et philosophiques d'Emmanuel Kant, qui ont les catastrophes d'aujourd'hui. Oui. Ça, il faut bien comprendre. Donc le modernisme entraîne la destruction de l'usage normal de notre intelligence. Un moderniste est incapable de penser droit à cause de ça. C'est pour ça qu'il est pratiquement impossible de convertir un moderniste. Je vois que de temps en temps, c'est rare, on a un moderniste qui vient faire la retraite, c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. On n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit parce que les mots pour le moderniste n'ont pas le même sens que pour moi. Un moderniste est inconvertissable dans son milieu. Ils ont tellement été corrompus par les idées modernes de liberté, d'égalité, de fraternité, de liberté de conscience, d'écuménisme, de collégialité, toutes ces bêtises-là, eh bien qu'on n'arrive plus à enlever ça des âmes. C'est comme un musulman. Un musulman dans son milieu est inconvertissable. Pas moi qui le dis. Hein. C'est le Seigneur Lefebvre nous le disait très bien, qu'il connaissait bien l'influence de l'islam en Afrique surtout. Le Bac, il était délégué apostolique pour Pie XII. Bon, il connaissait très bien l'Afrique. Et Mgr Lefebvre nous l'a dit souvent, un musulman dans son milieu est inconvertissable. Un moderniste dans son milieu est inconvertissable. C'est pour ça qu'on voulait, si d'aider un moderniste, la première chose qu'il faut faire, c'est l'aider à se couper de ce qui pourrit son âme, pourrit son intelligence et pourrit sa volonté. Le problème, c'est que les modernistes, en général, ne lisent que de la littérature moderniste. Que ça. Vous voyez, on peut vous donner un exemple pratique aujourd'hui, en pleine crise de cette décadence sanitaire épouvantable, cette dictature sanitaire contre imposant cette thérapie génique qui est tout ce que vous voulez sauf quelque chose de médical. Et bien cette thérapie génique empêche justement les gens de penser droit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tel matraquage, surtout par la télévision et la radio, les sites officiels d'Internet, que les gens croient en cette thérapie génique. Et ils en demandent. Et ils en demandent. Donc, quelle est la solution? Eh bien, c'est un peu une comparaison. De même que pour sortir du modernisme, se couper de ce qui met le modernisme dans nos intelligences et dans nos volontés, de même pour se couper de ces imbécilités actuelles prêchées à partir de la thérapie génique. J'ai oublié de faire attention aux mots que je prononce pour être sûr de ne pas me faire couper ma chaîne Internet. Mais la première solution, c'est se couper de ce qui provoque le modernisme dans nos âmes, ce qui provoque cette ignorance épouvantable dans nos intelligences. Donc la première chose qu'il faut faire pour se protéger de cette dictature sanitaire, c'est tout simplement débrancher sa télévision, il n'y aura plus de problème. Parce que vous avez commencé à penser droit, vous avez commencé à arrêter de penser, d'accepter qu'on vous mette dans la cervelle, qu'on vous lave la cervelle à longueur de journée, vous avez commencé par avoir le propre usage, l'usage propre personnel de votre intelligence. Donc Donc reprenez cette phrase très belle. Par l'habitation en lui de la Sainte Trinité, l'homme se divinise, devient l'héritier de Dieu et du Christ. Mais Dieu est un héritier libre. Dieu ne veut pas être servi par des robots ou des machines. L'évangéliste, en parlant ainsi, veut nous faire comprendre d'un côté la bassesse de la première génération qui vient du sang et de la volonté de la chair, et l'élévation de la seconde qui vient de la grâce et ennoblit notre nature, afin que nous ayons une haute idée de la grâce qui nous a engendrés, que nous ne négligions rien pour la conserver. Une fois qu'on a compris qu'on est des enfants de Dieu par adoption, par le baptême, eh bien il faut être fidèle, il faut être fier de ce baptême, et tout faire pour justement garder la grâce de notre baptême en nous. Hélas, quand on baptise, c'est très net, quand on baptise un adulte, combien de temps un adulte baptisé va-t-il conserver la grâce sanctifiante en lui? Heureusement que le bon Dieu nous a donné la confession. Et que les bébés, ça laisse un peu de temps libre. Je baptise un bébé, je sais que pendant à peu près 4 ans peut-être, ce bébé va rester en état de grâce. Au moins, celui-là, il est casé, dans le bon sens. S'il meurt, il va au ciel, pas de problème. Mais malheureusement, les idées modernes ont fait un dégât énorme. Je me rends compte même sur nos fidèles. La plupart, beaucoup de nos fidèles sont contaminés par le subjectivisme. L'objectivité, la connaissance, s'entraîne le réalisme, la société du réel, les deux pieds sur la terre, la tête au ciel. Alors qu'au contraire, les idées modernes sont toutes basées sur le subjectivisme, où l'homme fait sa propre vérité. Donc comprenons à quel point nous devenons des esclaves du démon lorsque nous suivons la volonté de la chair et la volonté du sang, et qu'au contraire nous devenons enfants adoptifs de Dieu quand on suit l'influence de la grâce qui ennoblit notre nature. Donc la chose la plus importante que nous ayons à faire dans notre vie de tous les jours, c'est de garder ce trésor extraordinaire qu'est la grâce sanctifiante. On ne réalise pas ce que c'est que la grâce sanctifiante. Mais on ne réalise pas ce qu'on a reçu. Je l'ai sans doute déjà dit, je m'excuse de me répéter, mais c'est ce qui m'a le plus frappé dans les pays du continent d'Asie, l'Asie continentale. Surtout un pays comme la Thaïlande ou même un pays comme le Népal par exemple. En Thaïlande, quand j'étais à Bangkok, quand j'étais à Katmandou, je suis allé plusieurs fois dans ces pays-là, à partir de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où j'avais un apostolat à l'époque comme membre de la Fraternité Saint-Pélis, c'était il y a longtemps. Et bien ça m'a frappé, quand j'étais dans les rues de ces rues très animées de cette énorme métropole qui est Bangkok, et par exemple, on sentait la présence du démon. C'était littéralement sensible, au sens sensitif du terme. On sentait la présence du démon. On voyait ces petits hôtels faits aux idoles, les idoles bouddhistes, ces éléphants, ces singes, etc. Et on voyait les pauvres bouddhistes qui venaient verser des libations de d'eau de coco, de farine de safran, des choses comme ça, de curry, etc. Et ils venaient offrir, ils mettaient ça sur la tête de ces faux dieux en statue, et c'est d'ailleurs dégoûtant, mais en même temps, c'était dégoûtant physiquement, c'était aussi dégoûtant moralement. Et je sentais la présence du démon. Quand j'étais aussi à Katmandou, ça m'a fait la même impression, au Népal. Pas une croix. Pas une seule statue de la Sainte Vierge, pas une seule statue des saints, que des choses matérielles. Il faut vendre aux touristes pour faire vivre le pays, on vend tous les montagnards qui viennent faire de la montagne là-bas. Il n'y a pas la présence de la grâce sanctifiante, pas une église catholique, rien, rien, rien. On est un pays complètement athée, complètement païen. Quand on est habitué à des choses comme ça, c'est très très dur. On débarque dans un pays là, Dieu est absolument absent. J'ai la même impression quand je vais visiter, ça m'est arrivé, quand je suis reçu, par exemple, dans une famille qui n'est pas catholique. On est habitué à être reçu dans les familles catholiques. Les familles catholiques, il y a des images de la Sainte Vierge, il y a des croix partout, il y a des crucifix. On voit un crucifix dans la salle principale de la maison. Il y a une image de la Sainte Vierge, un petit autel familial, il y a une petite statue de Saint Joseph. Des choses catholiques. Quand vous êtes reçu dans une famille même gentille, naturellement parlant, mais de païen, il n'y a rien. Pas une croix, pas une statue de la Sainte Vierge, pas une statue de Saint Joseph, rien du tout. Attends, bon, à la place, on va trouver une statue de Bouddha, ou je ne sais pas trop quelle idole et lequel faux Dieu. Ça fait mal physiquement parlant. C'est là où on se rend compte de l'importance de recréer une société missionnaire, puisque malheureusement, l'église moderne, l'église de Vatican II, et tout ce que vous voulez sauf missionnaire, ne cherche plus du tout à convertir. Et donc, il faut que nous, catholiques, nous ayons cet esprit missionnaire. D'abord chez nous. Commençons par rétablir dans notre propre maison, rétablir cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ, que la vertu de charité règne chez nos enfants, règne dans nos familles, que quand on rentre dans nos familles, qu'au moins tout de suite on puisse voir que c'est une famille catholique. On a encore le droit en France, ça ne va pas durer longtemps, mais enfin, encore jusqu'à aujourd'hui, on a encore le droit d'avoir une croix chez soi, on a encore le droit d'avoir une statue de la Sainte Vierge chez soi, d'avoir une croix, le droit d'avoir une statue de Saint Joseph chez soi. Profitez-en, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Avec l'islamisme qui est en train de tout prendre le pouvoir partout en France, il va y avoir très vite, si l'islam prend complètement le pouvoir en France, il va y avoir des ministres de la probité spirituelle pour leur fausse religion, là. Ils vont rentrer dans les maisons pour vérifier qu'on n'a pas qu'on a un Coran, qu'on a des choses musulmanes et qu'il n'y a pas de croix ni de statut catholique. Hein. Essayez d'avoir une croix dans un pays musulman. D'ailleurs, ce qui va vous arriver. Essayer d'avoir une croix dans un pays islamique, c'est impossible. J'avais un fidèle quand j'étais à Albuquerque, je vous l'ai déjà cité, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, j'avais un fidèle qui était un ancien colonel de l'armée américaine. Il avait été en Arabie Saoudite pendant les guerres très fréquentes là-bas, en tant qu'un colonel de l'armée américaine. Il me disait... les avions de la Croix-Rouge ne pouvaient même pas atterrir sur les aéroports de l'Arabie Saoudite à cause de la croix sur le fuselage et sur l'empennage arrière de l'avion. Il me disait qu'on était obligé de peindre en blanc les croix pour empêcher, pour pouvoir faire atterrir les avions de la Croix-Rouge, parce que les avions de la Croix-Rouge ne pouvaient pas atterrir à cause de la croix. C'est curieux de savoir si les musulmans d'Arabie Saoudite aujourd'hui acceptent dans leurs aéroports les avions de la Suisse Air où il y a une croix comme symbole. Je ne sais pas. Donc l'évangéliste s'en parente ainsi de nous faire comprendre d'un côté la bassesse de la première génération qui vient du sang et de la volonté de la chair et l'élévation de la seconde qui vient de la grâce. Afin que nous ayons une haute idée de la grâce qui nous a engendré. Comprenons la dignité qui est la nôtre à cause du baptême. À ce sujet, je voudrais vous reciter ce sermon magnifique du pape Saint Léon qu'on utilise pour les matines, qu'on lit pour les matines, deuxième nocturne des matines de Noël. Voilà ce que dit le pape Saint Léon, comme parlait le pape. C'est pourquoi, mes bien-aimés, rendons grâce à Dieu le Père, par son Fils dans le Saint-Esprit, de ce que, nous ayant aimés dans son infinie charité, il a eu pitié de nous. Comment, comme nous étions morts par les péchés, il nous a vivifiés tous en Jésus-Christ, afin que nous fussions en lui une nouvelle créature et un ouvrage nouveau. Dépouillons donc le vieil homme avec ses œuvres, et admis à participer à la naissance du Christ, renonçons aux œuvres de la chair. Écoutez ce texte magnifique. Reconnais aux chrétiens ta dignité. Et devenu participant de la nature divine, garde-toi de retomber par une conduite indigne de cette grandeur dans la bassesse, dans ta bassesse première. Souviens-toi de quel chef et de quel corps tu es membre. N'oublie jamais qu'arraché à la puissance des ténèbres, tu as été transporté à la lumière et au royaume de Dieu. Relis ce texte splendide. Reconnais aux chrétiens ta dignité par le baptême. Et devenu participant de la nature divine, garde-toi de retomber par une conduite indigne de cette grandeur dans ta bassesse première. Souviens-toi de quel chef et de quel corps tu es membre. N'oublie jamais qu'arraché à la puissance des ténèbres, tu as été transporté à la lumière et au royaume de Dieu. Voilà ce que donne le baptême, mes bien chers frères. N'oublions jamais cela. Vous voyez, ces choses sont tellement, tellement importantes, mes bien chers frères. On ne peut plus rien faire sans avoir compris ces choses-là. Ce texte de Saint Léon nous rappelle justement tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, à commencer par le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes, par la grâce sanctifiante. Notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas régner dans une âme qui est dans le péché, c'est impossible. Voilà, nous reprendrons plus tard. On avance doucement dans Saint Jean, c'est un évangile encore plus riche que les autres. Donc on prend son temps. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.